Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, ce mercredi matin au programme réveil ou coucher, en douceur. En tout cas, c'est un privilège de vous accompagner des potrons minés, jusqu'à 6h30.
Des potrons minés, j'aime bien. Nous sommes le 19 janvier, c'est la Saint-Marius et vous savez ce qu'on dit le 19 janvier, Julien ? Non, Alban non plus. Quand le froid frappe, il y a Anissa Haddadi qui arrive justement. Quand le froid, bonjour. Le froid frappe, la charrette dérape. Voilà, je vous laisse méditer en attendant qu'Anissa s'installe. La météo, c'est dans un instant. Voilà, passion dicton dans l'actualité de ce 19 janvier, Julien.
Encore et toujours des vacances aux Baléares.
Tu veux savoir où je suis, je suis en Espagne, sur une île où il pleut du champagne.
Comment faire oublier une île où il pleut du champagne ? C'est l'exercice compliqué auquel s'est attelé hier Jean-Michel Blanquer. On va voir dans un instant si le ministre de l'Éducation nationale a été convaincant. Notre choix ce matin, c'est une proposition de loi qui sera examinée cet après-midi à l'Assemblée. Un texte qui, s'il venait à être adopté, obligerait les Samsung, Apple et autres Huawei à installer d'office sur leurs appareils un contrôle parental.
Dispositif dont l'activation serait proposée à la première mise en service du produit.
Objectif, protéger nos enfants exposés de plus en plus tôt à la pornographie, à la violence ou au cyberharcèlement. Cette mesure peut-elle réellement changer la donne ? On en parle à 6h10 avec le rapporteur de ce texte, le député LREM Bruno Studer. Avant cela, Omblin, vous allez nous proposer des outils et des solutions concrètes pour lutter au quotidien contre le réchauffement climatique.
Alors, c'est l'idée de la métropole de Lyon qui propose sa quinzaine du climat chaque jour. Des ateliers thématiques sont accessibles en ligne, donc accessibles par tous entre midi et 2 et chacun peut trouver ainsi les leviers d'action qui lui conviennent pour agir en faveur de la transition écologique. On en parlera à 5h45 avec Philippe Guelpa Bonaro, le vice-président de la métropole de Lyon.
Enfin, on terminera avec votre partition, Omblin.
Elle a le pouvoir de réconcilier démocrates et républicains aux États-Unis. L'icône de la musique country, Dolly Parton, la voix d'un ange et le physique plantureux assumé. Rendez-vous à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme et comme promis la météo. Rebonjour Anissa.
Bonjour Julien, bonjour Omblin. Vous nous passerez 9 to 5 un petit peu
longueur.
Je serai là pour écouter Dolly Parton.
Avant Dolly Parton, oui, la météo, est-ce que quel temps aujourd'hui ?
Ah bah nul, zéro. Non, c'est vraiment pas terrible. Hier, on a eu un peu plus de soleil, donc on y a cru. On s'est dit, ça y est, on est parti jusqu'à la fin de la semaine. Alors aujourd'hui, c'est vraiment moins bien. Écoutez, c'est simple, je vais juste vous donner les endroits où il y a du soleil. C'est sur les Pyrénées et les Alpes. Voilà, même au bord de la Méditerranée, on a une dégradation sur la Provence, la Corse. C'est beaucoup moins bien, le ciel se couvre. Sur le Var, on a même des petites averses ce matin. On a beaucoup de brouillard sur tout le reste du pays. Attention, en Auvergne et en Moselle, ce sont des brouillards givrants. Cet après-midi, le ciel va rester couvert sur les 4/5 du pays, toujours gris sur le pourtour méditerranéen, avec même des averses dans le Var cet après-midi. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, on a une petite perturbation qui arrive, qui apporte de la pluie et de la neige pour demain. Les températures, moins 6 à Aurillac, moins 4 à Clermont et Lyon, moins 3 à Besançon, 2 degrés à Paris, 6 à Toulon, c'est en dessous des normales.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Couvrez-vous donc, très bon réveil à tous. Il est 5h.
S'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais. Parce que je vois bien la connotation qu'il a. Donc, bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu. Mais sur le fond, ça ne changerait rien.
Jean-Michel Blanquer assume, après la polémique sur ses vacances à Ibiza, mais ne veut pas être un bouc émissaire. Opération désamorçage hier soir sur TF1 pour le ministre de l'Éducation nationale, à moins de 48 heures d'une nouvelle journée de grève. Le grand oral pour Emmanuel Macron, aujourd'hui à Strasbourg. Traditionnel discours du président du pays qui prend la tête du Conseil de l'Union européenne. Et cette question, la présidente française de l'Europe sera-t-elle polluée par la campagne française ? Réponse dans ce journal. Et puis, succès dans la lutte contre les locations Airbnb à Bordeaux. 4000 logements sont revenus sur le marché classique en 3 ans. La plupart du temps, les propriétaires y sont contraints face à la mise en place de règles strictes.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mercredi 19 janvier vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Jean-Michel Blanquer prend les devants. Il veut clore la polémique sur ses vacances à Ibiza alors qu'une nouvelle journée d'action est prévue demain dans l'éducation nationale. Hier soir, il s'est invité sur le plateau du 20h de TF1 pour s'expliquer. Hors de question de céder à la pression de l'opposition.
Écoutez, on est en période présidentielle, donc je crois que le mot démission sera prononcé par bien des candidats très souvent. Je pense qu'il faut garder le sang-froid. C'est très paradoxal aujourd'hui pour moi d'être un peu sur le banc des accusés, alors que je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le sujet. J'ai pris 4 jours de vacances, j'ai travaillé pendant mes 4 jours de vacances. Donc, je ne crois pas qu'il y a là véritablement matière à accusation. Par contre, je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, ce n'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air, en lien avec le gouvernement, le cabinet et les interlocuteurs, comme d'ailleurs la chronologie le montre. Mais si on regarde froidement les choses, on ne doit pas non plus tous les jours se battre sa coulpe parce que les adversaires ont envie de vous déstabiliser. Donc, s'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais, parce que je vois bien la connotation qu'il a. Donc, bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu. Mais sur le fond, ça ne changerait rien.
Voilà, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a noté l'interdiction de la manifestation parisienne prévue demain par plusieurs syndicats enseignants. Déclaration effectuée hors délai, selon la préfecture de police de Paris, qui rappelle qu'il faut déclarer les manifestations au moins 3 jours avant le jour J.
Au lendemain de l'élection de la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, ouvertement anti-IVG. La direction Strasbourg pour Emmanuel Macron aujourd'hui.
Premier discours pour le président qui prend la tête du Conseil de l'Union européenne. Il va devoir convaincre une assemblée d'eurodéputés issus des 27 que non, la campagne présidentielle en France ne l'empêchera pas d'assurer et surtout d'assumer la présidence de l'Union européenne. Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement lancé dans la course, mais ça ne saurait tarder. C'est ça qui inquiète Agathe Cherki.
Oui, plusieurs eurodéputés le promettent. Ils rappelleront à Emmanuel Macron tout à l'heure que l'agenda politique français ne doit pas l'empêcher d'avancer sur son agenda européen. C'est une crainte que beaucoup d'eurodéputés partagent, à l'image de l'écologiste allemande Anna de Parnay-Grunenberg.
Si on est très réaliste, la présidence française, vu qu'elle ne peut travailler que 3 mois sur 6, ne va pas faire avancer les dossiers énormément.
Et les inquiétudes sont particulièrement vives pour les dossiers les plus délicats politiquement. Le député roumain chrétien-démocrate Marian Marinescu comptait par exemple sur la France pour faire avancer un texte majeur pour le trafic aérien en Europe.
Je crois qu'ils vont éviter d'avoir des décisions qui peuvent affecter le président Macron dans sa campagne électorale. Par exemple, le dossier style unique, c'est un dossier qui peut provoquer des grèves.
Un espoir quand même au Parlement. Tout le monde a bien conscience qu'Emmanuel Macron va profiter de la présidence française du Conseil pour renforcer son image pro-européenne. Et certains eurodéputés y voient une aubaine et se disent qu'au moins, dans les mois à venir, en France, on parlera d'Europe et qu'en Europe, eh bien, la France a tout de même intérêt à engranger quelques succès.
Les précisions d'Agathe Cherki depuis Bruxelles.
L'épidémie de Covid et des chiffres jamais vus en France jusqu'ici. Près de 465 000 contaminations ces dernières 24 heures.
Oui, on compte aussi 309 000 cas quotidiens en moyenne sur les 7 derniers jours. Dans les services de réanimation, 47% des lits sont occupés par des patients obèses, selon le ministère de la Santé, un facteur de comorbidité. Résultat, depuis le début de la pandémie, bien que vaccinées, ces personnes vivent dans l'angoisse permanente d'être contaminées et de développer une forme grave. Yasmine Akatou.
Depuis 2 ans, Catherine vit chaque jour dans l'angoisse. À 55 ans, malgré ses 3 doses, son obésité l'oblige à vivre isolée pour éviter une infection au Covid. Le quotidien est devenu oppressant.
De temps en temps, on va faire des courses comme tout le monde. Je vous dis pas le stress, quoi. C'est nettoyage du caddie. On sort du magasin, on se remet du gel. On arrive à la maison, je rince tout. Ça prend un temps fou. Les amis, les sorties, on peut pas se réunir. On se sent désociabilisé, quoi.
Le moral de Catherine est au plus bas ces dernières semaines. La santé mentale des personnes obèses a été ébranlée par la pandémie. Alexandra Tubiana, psychologue spécialiste des troubles alimentaires, l'a constaté.
On a tellement insisté sur c'est les gros qui sont les plus à risque que toute personne en situation d'obésité est dans un état de stress important, en se disant moi j'ai plus de risques que les autres. Et donc, une grande difficulté à gérer ce stress et donc une aggravation des troubles.
Il faut ajouter à cela la crainte de ne pas pouvoir être correctement soigné, dit la psychologue. Souvent, dans les hôpitaux, les lits, les tensiomètres ou les lèvres-personnes ne sont pas adaptés aux obèses.
Yasmina Katou.
C'est un problème que rencontrent de nombreuses grandes villes, à l'image de Paris, Lyon ou encore Marseille, le manque de logements pour leurs habitants.
Oui, conséquence pour certains de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'immobilier, c'est-à-dire les appartements ou maisons meublées proposées sur des plateformes de location à la nuit, plus rentable pour certains propriétaires. À Bordeaux, cela fait 3 ans que la municipalité tente de contrer ce phénomène et ça marche. 4000 appartements sont revenus sur le marché dit classique. Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire de Bordeaux, chargé du logement.
Lorsque vous voulez mettre en location votre logement sur une plateforme comme Airbnb, plus de 120 jours par an, si c'est votre résidence principale ou si vous voulez mettre votre résidence secondaire, vous devez compenser, c'est-à-dire que vous devez créer un nouveau logement de la même taille dans le même quartier. Forcément, ça a limité le fait qu'il y ait de nouvelles annonces sur la plateforme Airbnb. La deuxième raison qui explique la baisse qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Covid. Avec une baisse de la fréquentation touristique, moins de locations sur ces plateformes. Du coup, les propriétaires ne s'y retrouvent plus parce qu'ils n'ont plus ces rentrées financières, donc ils remettent leurs biens sur le marché de la location. Et troisième élément, depuis la mi-2021, il y a un deal entre l'État, certaines communes dont Bordeaux et les plateformes, c'est-à-dire que chaque annonceur a un numéro unique qui lui correspond. Et les plateformes doivent nous communiquer chaque année le nombre de locations de chacun de ces numéros. Et donc du coup, ça nous permet comme ça d'affiner nos contrôles. Le tribunal judiciaire a jugé trois affaires pour l'instant entre la fin décembre et début janvier. Les propriétaires ont été condamnés à entre 5 et 10 000 euros d'amende. Les amendes sont conséquentes sans être trop lourdes non plus, mais elles sont quand même dissuasives.
Stéphane Pfeiffer au micro Europe 1 de notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place.
Allez, on fait un bond dans l'histoire. Retour 2500 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et cette question à laquelle a tenté de répondre une équipe de l'Institut français Jacques Monod. Comment utilisait-on les animaux pour faire la guerre?
Et les chercheurs ont trouvé la réponse. Elle s'appelle Kunga. Les Kunga, c'est une sorte d'âne hybride trapu créé de la fusion de deux espèces différentes, utilisée pour tirer les chars des Mésopotamiens lors des combats, les explique de Zoé Pallier.
Ce sont des ânes plutôt trapus apparus il y a plus de 4500 ans. Les Mésopotamiens les utilisaient lors des combats pour tirer leurs chars. Ces équidés, appelés Kunga, avaient pour mère une ânesse domestiquée et pour père un âne sauvage d'une autre espèce. C'est ce qu'ont découvert par des analyses ADN des chercheurs de l'Institut Jacques Monod, dont fait partie Eva Maria Geigel.
On a pu conclure que ces équidés-là sont des hybrides faits par l'être humain parce qu'on savait aussi qu'ils étaient stériles. Les Mésopotamiens, ils ont dû observer un accouplement entre émions, donc un âne sauvage, avec une ânesse domestiquée. Et donc, ils ont commencé à vraiment industrialiser cette pratique.
Car le Kunga héritait des qualités de ses deux parents.
On peut supposer que ces Kunga, ils étaient plus contrôlables, parce que la mère était une ânesse domestiquée, et qu'ils étaient plus rapides, parce que les pères étaient un émion.
Mais ce génie génétique imaginé à l'âge de bronze n'a finalement pas tenu face à l'arrivée du cheval domestique qui se reproduisait un peu plus facilement.
Zoé Pallier.
Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal et des ânes mésopotamiens. On passe tout de suite aux chevaux de course contemporains. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 607 Miss Media. D'une régularité de métronome, quel que soit le parcours proposé, elle trouve ici une nouvelle occasion de s'illustrer dans ce handicap, largement à sa portée, d'autant plus qu'elle sera une nouvelle fois associée au crack jockey Christophe Soumillon, avec lequel elle s'entend à merveille. Dès lors, elle devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 7, Miss Media.
Miss Media, merci Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Et nous, on revient dans quelques secondes, le temps d'aller chercher les journaux pour le pressing.
Et nos trois histoires du matin, au menu Le Pen-Zemmour, Nid d'espion, Rasta Rocket, Le Retour et Le Monde Rêvé de Mark Zuckerberg. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Peirce sur Europe 1.
C'était la pause la plus courte du monde sur la bande FM.
Faut qu'on appelle le Guinness des records.
On repart tout de suite et avec le pressing, quelle merveille. Autour de la table avec nous Martin Lange, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour
c'est
Julien.
C'est Martin
bonjour
la merveille.
Oui, et vous aussi, vous êtes une merveille. Bah, voilà.
Me voilà rassuré, voilà, merci beaucoup. Maintenant. On commence avec les unes de vos journaux et ce visage qui revient quasiment partout, celui du ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, Jean-Michel Boulet, titre Libération. Pas très gentiment. Les regrets de Blanquer après ses vacances à Ibiza, ajoute Le Parisien. Le cas Blanquer met le gouvernement dans l'embarras, conclut Le Figaro. Voilà, il y a du Blanquer un peu partout ce matin dans la presse. Le reste est un petit peu passé à l'as. Omblin, quel article vous a tapé dans l'œil ce matin ?
L'imitation est la plus sincère des flatteries. Ça, c'est ce que disait Charles Caleb Colton, un écrivain britannique du XVIIIe siècle. Voilà peut-être une citation qui plairait beaucoup à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Qui est l'original ? Qui est la copie ? C'est la question posée par Le Parisien aujourd'hui en France. Chaque camp, en tout cas, accuse l'autre de marcher sur ses plates-bandes. Vendredi dernier, Marine Le Pen s'est rendue en Bretagne pour présenter son programme sur la crise énergétique. Deux jours plus tard, Éric Zemmour a lui aussi exposé ses idées à ce sujet. Trois jours après le déplacement du candidat de Reconquête, dans les rues populaires de Drancy, en région parisienne, on a pu voir la candidate du Rassemblement national se rendre dans un quartier sensible d'Alençon. Qui est allé à Budapest en premier ? Éric Zemmour, ensuite Marine Le Pen. Qui avait prévu un voyage en Vendée d'abord ? Marine Le Pen affirme l'avoir organisé en premier, mais a dû l'annuler parce que, dit le RN, Éric Zemmour y est allé avant pour lui couper l'herbe sous le pied. Ça fait un peu quand même, arrête de me copier quand même, hein, arrête de me copier comme dans une cour de récréation. Est-ce que Marine Le Pen et Éric Zemmour, entre les deux, on s'échange des bons tuyaux ou on s'espionne ? Et surtout, qui espionne qui ? A priori, les deux, rien d'étonnant pour un élu RN qui témoigne dans le quotidien. Il y a, je cite, une porosité très forte entre nous. Alors, imitation ou volonté de saboter ? En tout cas, les détails de certains déplacements de Marine Le Pen sont volontairement passés sous silence désormais pour éviter d'alimenter les informations des possibles taupes. Prochain court-circuitage de prévu, le 5 février, Marine Le Pen lancera sa campagne à Reims. Et on murmure qu'Éric Zemmour organisera lui aussi, ce jour-là, un grand meeting. En clair, entre le Rassemblement National et Reconquête, on tente de montrer qui est la plus grosse mobilisation. Entre Zemmour et Le Pen, ambiance nid d'espions, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Merci Omblin. Martin, à vous.
Oui, avec le retour des Rasta Roquettes. Alors, Rasta Roquette, hein, c'est un film culte des années 90, ah oui. Mais c'est surtout une histoire vraie, celle de quatre Jamaïcains sélectionnés pour l'épreuve de bobsleigh des Jeux Olympiques de Calgary. C'était en 1988.
On cherche un sponsor qui veuille financer l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque.
Ils rêvaient de concourir aux Jeux Olympiques. Mais ils ont choisi un sport dont ils ignorent tout. Et qui se pratique sous des cieux peu cléments.
Il faut pas oublier une chose, le truc vital dans ce sport, c'est la résistance au froid.
L'histoire véridique de quatre athlètes pas comme les autres.
Eh bien, figurez-vous hein, que le bob jamaïcain est de retour. Hein. La fédération a annoncé hier que trois équipages s'étaient qualifiés pour les Jeux de Pékin. Hein,
trois équipages.
Dans moins d'un mois, exactement. C'est historique. Ça va être le feu sur la glace, a commenté Team Jamaïca sur son compte Twitter. Dans le détail, hein, le bob à quatre masculins, le bob à deux hommes également, et le monobob femmes seront sur la glace chinoise. C'est évidemment une grande première pour l'île caribéenne. Depuis 1988, elle a participé à plusieurs reprises aux épreuves de bobsleigh, mais elle n'a jamais aligné trois équipes. Par ailleurs, c'est la première fois depuis 24 ans que la Jamaïque alignera un équipage à quatre. C'est la catégorie reine du bob, celle qui avait inspiré le film.
C'est à un membre de cette équipe de 1988 qu'on doit ce retour en fanfare du bobsleigh jamaïcain.
Oui,
Martin.
Il s'appelle Chris Stokes, devenu depuis président de la fédération jamaïcaine. C'est lui qui continue par tous les moyens à développer son sport dans un pays où les installations et même la glace ne sont pas légion. C'est un euphémisme. Il cherche d'ailleurs des financements avant les Jeux, notamment pour pouvoir s'équiper, acheter des bobsleighs. Ces traîneaux aujourd'hui bourrés de technologies équivalent une petite fortune. Depuis un peu plus d'un mois, une cagnotte est en ligne pour réunir les 194 000 $ nécessaires à l'achat de ces bolides. Bon, pour l'instant, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. À peine 4 000 € ont été récoltés. Ouais, on est loin du compte. Mais Chris Stokes espère que l'annonce de cette sélection historique relancera les dons. Nos sportifs sont aussi volontaires, travailleurs et talentueux que les autres. Mais sans bobsleigh de haut niveau, ils ne pourront jamais atteindre leur potentiel. Nous ne voulons pas faire des courses de dragster dans une Prius. Alors, avis aux âmes charitables. Rasta Roquette de retour au JO, c'est à lire sur le site de West France.
Et si vous avez quelques milliers d'euros à dépenser ou à accorder au Team Jamaïca, ils vous en seront immensément reconnaissants. Merci beaucoup Martin. J'ai choisi de mon côté une enquête du Financial Times et n'y voyez aucune tentative de ma part de me la raconter. Pas du tout, ce n'est pas le genre de la maison puisque
non,
cette enquête...
pas le genre. Non.
Pas du tout. On la retrouve en français, cette enquête, sur le site du Figaro. Je vous parle ici même régulièrement des derniers développements du Métaverse, le fameux univers numérique parallèle qui est en train de bâtir Meta, le nouveau nom de Facebook. Pour rappel, le Métaverse, c'est un monde numérique dans lequel nous évoluerons à l'aide de casques ou de lunettes de réalité virtuelle. Nous aurons chacun un avatar, un personnage fait de pixels avec lequel on se baladera dans des villes faites de pixels. Ce sera une petite révolution pour plein de choses. L'éducation, par exemple. Il y aura des écoles virtuelles dans lesquelles vous pourrez apprendre la langue de votre choix dans une ambiance bien plus immersive que les cours en ligne que l'on trouve actuellement. Vous pourrez aussi vous entraîner, pourquoi pas, à conduire une voiture si vous passez bientôt votre permis permis. Bref, les possibilités sont infinies. Surtout, rayon shopping. Et ça, ça n'a évidemment pas échappé au grand philanthrope qui est Mark Zuckerberg. Car ces avatars, ces doubles numériques, seront avant tout un moyen pour les marques de nous faire passer deux fois à la caisse. Vous aurez besoin de vêtements virtuels, d'outils virtuels. Notre but est que ce marché atteigne des centaines de milliards de dollars. Voilà ce qu'expliquait en octobre le patron de Meta à des analystes financiers. Or, qui dit commerce ? Dit publicité, et même publicité ciblée dans le cas de Facebook qui en a fait le secret de sa fortune. J'en reviens donc au Financial Times qui a eu la très bonne idée d'éplucher les centaines de brevets que le groupe californien a déposés récemment aux États-Unis et qui laisse entrevoir la manière dont le métaverse sera monétisé. Est-ce que ce qu'a découvert le journal britannique rappelle furieusement l'univers du film Minority Report sorti il y a tout juste 20 ans ? Est-ce que vous l'avez vu ?
Oui.
Oh oui.
Alors vous vous souvenez sûrement que lorsque Tom Cruise marche dans la rue ou dans un centre commercial, les panneaux publicitaires qu'il croise scannent sa rétine automatiquement et sont capables de l'interpeller, de lui proposer un message commercial personnalisé. « Hey, monsieur Anderton, vous avez l'air déshydraté, venez donc boire une Guinness. Monsieur Anderton, je vous ai vu lorgner sur notre dernier modèle Lexus, venez l'essayer. » Voilà exactement ce que Mark Zuckerberg veut faire du métaverse, un monde dans lequel vous serez assailli de publicités hautement personnalisées qui s'adapteront en direct à vos réactions. Et c'est là qu'entre en jeu les casques de réalité virtuelle indispensables pour se connecter au métavers. Ils sont bardés de capteurs et de caméras capables d'analyser votre visage ou le mouvement de vos yeux. Autant d'éléments utilisés officiellement pour rendre plus crédible votre avatar, pour qu'il soit capable de répliquer vos expressions faciales en direct, notamment par exemple lors d'une réunion de travail. Mais ces données pourraient être détournées de leur usage premier et venir ainsi alimenter les algorithmes publicitaires. C'est une mine d'or pour les marques. Imaginez, vous êtes dans le métaverse et vous passez devant une pub d'une marque de vêtements qui vous présente sa dernière collection. Et là, il y a, Ombline, une veste qui attire particulièrement votre regard. C'est naturel, c'est normal. Et bien cette donnée, les capteurs de votre casque de réalité virtuelle ne vont pas la manquer. Ce qui fait que cette veste, et uniquement cette veste, vous sera proposée inlassablement les jours suivants, jusqu'au moment où fatalement vous allez craquer. Bienvenue dans le métaverse, le monde rêvé de la publicité ciblée, c'est à lire sur le site du Figaro.
On va nous avoir à l'usure, quoi.
On préfère à Star Rocket à Minority Report.
C'est de celle de ambiance. Merci beaucoup Julien, merci Martin. Rideau sur le pressing et Martin, on vous retrouve dans 40 minutes pour les sports. À tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Voici le retour de l'actu, le journal permanent, Alban Le Prince.
Nouveau record de contamination en 24 heures en France, près de 465 000 cas de Covid hier, du jamais vu. Le nombre d'infections quotidiennes moyennes passe d'ailleurs à 309 000 selon Santé publique France. De nouvelles aides pour les secteurs de l'hôtellerie, restauration, événementiel et les agences de voyage. Jean Castex, le Premier ministre, promet une aide égale à 20% de la charge salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés qui ont perdu au moins 30% de chiffre d'affaires en décembre et janvier. Jean-Michel Blanquer s'explique. Le ministre de l'Éducation était l'invité du 20h de TF1 hier soir. Objectif, mettre fin à la polémique sur ses vacances à Ibiza. Jean-Michel Blanquer se défend, mais regrette la symbolique de sa destination. 4 soldats français blessés, dont un grièvement au Burkina Faso. Au passage de leur véhicule, ils ont été piégés par l'explosion d'un engin explosif improvisé, selon l'état-major français. Les militaires en mission de reconnaissance font partie d'une unité de Barkhane.
Europe 1. Vous avez la parole chaque matin à 5h20 sur Europe 1. Ce sont les initiatives en France, la chronique qui fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, Julien, direction le Maine-et-Loire.
Bonjour Nicolas Cruaud.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur de Néolith. C'est une start-up basée à Angers qui propose une solution très ingénieuse pour limiter l'impact environnemental des déchets de chantier. Expliquez-nous.
Alors oui, Néolith a développé un procédé qu'on a appelé la fossilisation des déchets et qui consiste à transformer les déchets ultimes, donc tous les déchets non recyclables en mélange. Donc c'est des mix de plastique, de bois, de carton, de papier, qui normalement devraient être enfouis ou incinérés. Et ces déchets, ce qu'on propose de les faire, c'est de les fossiliser, donc de les transformer en des pierres, donc des granulats, comme des granulats de carrière, qui serviront donc à faire des ouvrages de construction, des bétons, des routes, tout ce genre de choses.
Ce sont des fragments de roche qui sont essentiels sur de nombreux chantiers, ces granulats. Ils sont notamment utilisés comme sous-couche avant la pose du bitume lors de la construction des routes, c'est bien ça ?
C'est ça, le granulat, c'est vraiment la matière fondamentale pour toute la construction. C'est la première matière première extraite en France, hein, consommée en France, c'est 450 millions de tonnes par an, donc c'est un gisement phénoménal. Et donc nous, finalement, en venant transformer les déchets qui normalement ne pourraient pas être recyclés en des granulats, on leur offre une seconde vie dans une filière qui a du sens et dont on a énormément besoin.
Oui, il faut rappeler que chaque année en France, les chantiers produisent plus de 200 millions de tonnes de déchets et dont une grande partie ne sont pas recyclables. C'est considérable.
Oui, alors pour préciser quand même exactement la technologie de fossilisation, une grosse partie des tonnages sur les déchets dont vous venez de parler, ce sont des gravats. Donc c'est vraiment déjà des granulats minéraux, enfin en gros des morceaux de béton, des morceaux de briques. Ça ne se prête pas à la fossilisation parce que c'est déjà minéral. Donc on y trouve des valorisations autres. Nous, ça ressemble énormément à de l'ordure ménagère. Ce qu'on traite, c'est vraiment, vous imaginez les sacs plastiques, les bâches, les emballages de carton, mais que des choses très souillées parce que du coup, ce qui les rend non recyclables. Et donc nous, c'est ça aujourd'hui notre matière première. C'est finalement, en termes de tonnage, assez faible par rapport aux 200 millions dont vous parliez, mais c'est les plus problématiques.
Oui, parce qu'il faut derrière les enfouir ou les incinérer, ce qui génère derrière du CO2. Comment vous procédez? Vous réduisez en poudre, c'est ça, ces déchets?
C'est ça. L'idée, c'est qu'on prend tous les déchets en mélange, donc non recyclables. On ne va pas essayer de les pré-trier dessus, enfin les surtrier. On va les broyer plusieurs fois jusqu'à obtenir une sorte de farine de déchets. Donc vous imaginez des tailles de particules entre 0 et 500 microns. Et ensuite, cette farine de déchets, on va faire réagir avec un liant, donc une sorte de colle particulière qu'on a développée qui permet de minéraliser la matière et de donner une structure minérale à tout ça, de façon à la fin à obtenir, après extrusion, des petits blocs, donc comme si on faisait des croquettes, mais minérales, donc qui ressemblent plutôt à des cailloux à la fin.
Oui, d'où le nom de votre machine, c'est-à-dire le fossilisateur. Comment vous est venue cette idée?
L'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, moi je ne suis qu'un des trois associés originaires de l'idée. L'idée, c'est mon père qui l'a eue, c'est lui, il est tailleur de pierre, c'est aujourd'hui le directeur de la R&D de Néolith. En fait, on vient de l'Anjou, donc dans les Pays de la Loire, où les châteaux de la Loire, tout ça, sont faits en tuffeau, c'est un calcaire. Et mon père s'est dit que finalement, ce calcaire, c'était de la fossilisation des déchets des dinosaures, les déchets organiques qui sont minéralisés avec le temps. Et il s'est demandé si on pouvait pas faire la même chose avec nos propres déchets.
Et ils ne présentent aucun risque de pollution, vos granulats? Ils ne se décomposent pas avec le temps?
Non, ils ne décomposent pas avec le temps. Ça, c'est les premiers trucs qu'on doit regarder, nous, et que nous demandent les normalisateurs de la construction. Et surtout aussi, on appelle ça de la lixiviation. Ils ne transpirent pas de pollution si on met de l'eau dessus, de façon à pas. L'idée, c'est pas de polluer les nappes phréatiques ou l'environnement. À la base, on fait ça pour une question environnementale, donc on n'a pas envie de recréer des problèmes sanitaires. Mais c'est vraiment
évidemment
les premiers tests qu'on regarde.
Cette machine que vous développez, vous comptez la vendre à qui?
Alors cette machine qu'on développe, dans un premier temps, on va la vendre aux acteurs du recyclage, donc les gens qui ont des centres de recyclage et qui, à la fin du recyclage, ont finalement une grosse partie de leur flux qui est non recyclable et qui doivent normalement envoyer en incinération ou en enfouissement. Ça, c'est nos premiers clients. Et ensuite, nos futurs clients, c'est quand on arrivera à faire exactement la même chose, mais sur l'ordure ménagère, donc sur la poubelle de votre cuisine. Ça, c'est prévu pour l'année prochaine. Et donc là, à partir de là, les clients seront directement les villes, parce que ce sont les villes qui sont responsables de vos déchets.
Merci beaucoup, Nicolas Cruau, de nous avoir présenté Néolith et son procédé révolutionnaire capable de transformer les déchets de chantier aujourd'hui et bientôt les déchets ménagers, on l'a bien compris, en granulats artificiels. On vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon début de matinée sur Europe 1, mercredi 19 janvier, et du cinéma au programme de la prochaine demi-heure.
Oui, avec le nouveau Claude Lelouch, L'amour c'est mieux sur la vie, l'histoire de quatre amis inséparables dont l'un est atteint d'un cancer, et puis avoir également la comédie romantique dont le décor est une boucherie tendre et saignant, c'est le nom du film avec Géraldine Pellas et Arnaud Ducré, ce sont les choix ciné de Laurie Choleva.
Et puis c'est en ce moment la quinzaine du climat organisée par la métropole de Lyon.
Ce sont des ateliers thématiques accessibles en ligne par tous pendant la pause déjeuner, gérer ses eaux de pluie, se chauffer sans polluer ou rénover son habitation en respectant l'environnement, autant de solutions concrètes pour agir à son échelle dans sa vie quotidienne ou sur son lieu de travail contre le dérèglement climatique. On sera dans un quart d'heure avec Philippe Guelpa-Bonaro, le vice-président de la métropole de Lyon.
La météo, Anissa Haddadi, et ce mercredi s'annonce très gris.
Oui, très gris pour tout le monde. Alors, on va être tous logés à la même enseigne ou quasiment, parce que même dans le sud, hein, le ciel se couvre avec ce matin des averses sur le Var, débrouillard en Corse. C'est en montagne en fait. C'est le seul endroit où il va faire beau, sur les Alpes et les Pyrénées. Là, là, le soleil s'accroche et brille encore bien aujourd'hui. Partout ailleurs, c'est très gris, vous le disiez Julien, avec beaucoup, beaucoup de brouillard. Attention au brouillard givrant en Alsace, en Moselle. Attention également du côté de l'Allier. La matinée est humide aussi, on a pas mal de bruine sur l'ensemble du territoire. On a même quelques flocons qui virevoltent dans le ciel. Cet après-midi, ça reste gris sur presque toute la France, avec une petite perturbation même qui arrive entre la Bretagne et le Nord, hein, sur le long des côtes de la Manche. Là, on va avoir de la pluie cet après-midi. Moins 6 à Aurillac, moins 4 à Grenoble et Lyon ce matin, moins 2 à Saint-Étienne et Strasbourg, 0 à Limoges, 2 degrés à Paris et au Havre, 5 à Bastia. Cet après-midi, c'est en dessous des normales avec 2 degrés à Besançon, 5 à Lyon, 8 à Paris et 14 degrés à La Ciotat.
Merci Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1. On va mettre 40 euros divisé par 2 œufs, 20 litres. Oh, ça me fait mal. Regardez, on y est déjà. J'ai à peine appuyé, regardez. J'avais jamais vu 2 euros le litre.
La flambée des prix de l'essence, les étiquettes valsent dans les stations-service et les automobilistes comme celui que vous venez d'entendre sont médisés. Plus d'1,60€ le litre de diesel en moyenne. Beaucoup de Français se disent étranglés par cette hausse des prix. Le grand oral d'Emmanuel Macron, le président sera à Strasbourg aujourd'hui. Discours devant le Parlement européen alors que la France vient officiellement de prendre la présidence tournante du Conseil. Et puis dans ce journal, une illustration de l'archipel... Bon, en cours, cher au politologue Jérôme Fourquet, en Indre Loire, je le dirai plus tard, ce mot, un lotissement va bientôt sortir de terre. Particularité, il est destiné de préférence aux chrétiens.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
L'archipélisation. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Et c'est le journal de Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Cette fois, ça commence vraiment à se voir. Il n'est pas rare de croiser une station-service où le prix de l'essence flirte avec les 2 euros le litre. Dans certaines métropoles comme Paris, c'est déjà le cas. Et en dehors des grandes villes, ce n'est guère mieux. Sur l'autoroute, par exemple, le litre de diesel s'affiche à 1,60€. En moyenne, 1,62€ le sans-plomb 95. Une hausse de plus en plus insupportable pour les automobilistes. Marion Gauthier est allé à leur rencontre sur l'autoroute A4 dans la région parisienne.
Vous l'entendez ?
Comme un gargouillement du réservoir qui vaut son pesant d'or.
C'est de la folie, c'est du sans-gêne, c'est honteux.
Pas assez de qualificatifs pour ce compteur qui s'emballe. Certaines voitures ralentissent, passent leur chemin. D'autres, sur la réserve, sont forcées de marquer l'arrêt à la pompe.
Bon, là, on va mettre 40 euros, divisé par 2 œufs, 20 litres. Bon, ça me fait mal. Hein. Regardez, on y est déjà. J'ai à peine appuyé, regardez. J'avais jamais vu 2 euros le litre. Je ne comprends pas que les prix augmentent autant.
Pourtant, Christophe sort sa carte bleue. Encore incrédule, ce serrurier à son compte paie 25 euros de plus par plein d'essence, 100 euros de plus par mois.
C'est un bien de consommation, le véhicule. On vit avec, je travaille sur des chantiers, j'ai tout le matériel pour travailler dedans, donc je suis obligé de rouler avec, c'est dur. C'est les petits plaisirs de la vie qu'on met de côté pour de l'essence en fait.
Lors de ses allers-retours quotidiens entre Paris et la Picardie, ce père de famille se demande si les grands panneaux des aires d'autoroute afficheront bientôt en chiffres rouges une baisse des prix du carburant.
Un reportage Marion Gauthier.
La campagne pour l'élection présidentielle avec un premier coup de théâtre à gauche, il est signé Arnaud Montebourg.
Le chantre de la remontada choisit de s'éclipser. L'ex-ministre du redressement productif devrait annoncer mardi ou mercredi prochain son retrait de la course à la présidentielle. Et selon son entourage, Arnaud Montebourg ne devrait pas se désister en faveur d'un autre candidat.
C'est un moment symbolique. Emmanuel Macron va lancer officiellement la présidence française du Conseil des ministres de l'Union européenne.
Le moyen idéal d'entrer en campagne, sans le dire, europhile convaincu, le chef de l'État passera une sorte de grand oral devant le Parlement de Strasbourg. Le président va dérouler les priorités et répondre aux questions des eurodéputés. Alexandre Chauveau, à moins de 90 jours de l'élection présidentielle, ces échanges auront aussi une dimension nationale.
Oui, on peut dire que c'est le vrai coup d'envoi de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, mise en scène par Emmanuel Macron qui parlera face aux eurodéputés pour la deuxième fois de son quinquennat. Alors au-delà de son discours où il présentera ses grandes orientations sur la souveraineté européenne, la réforme de l'espace Schengen ou la transition écologique, c'est l'exercice de questions-réponses avec les députés qui sera observé de près. Parmi les élus, plusieurs Français devraient en effet prendre la parole. François-Xavier Bellamy des Républicains, Jordan Bardella pour le Rassemblement national et même Yannick Jadot Delgado, eurodéputé écologiste et surtout candidat à l'élection suprême. Un face-à-face avec des adversaires clairement marqués politiquement, auxquels Emmanuel Macron s'est préparé, alors que les différentes oppositions lui reprochent de ne pas avoir décalé son mandat à la tête de l'UE, venu télescoper la présidentielle. Mais l'Élysée veut officiellement faire de cette séquence un événement européen, même s'il sera finalement très franco-français. Emmanuel Macron ne s'en est jamais caché. Il compte à nouveau mettre l'Europe au premier plan lors de sa très probable future campagne.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Ce n'est pas le retour du quoi qu'il en coûte, mais on n'en est pas loin.
Jean Castex annonce une nouvelle salve d'aide pour les cafés et restaurants. Elle sera limitée dans le temps et rétroactive puisqu'elle s'appliquera pour les mois de décembre et janvier de cette année. Seules les entreprises de moins de 250 salariés accusant une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 30% sont concernées. Ça prendra la forme d'exonération de charges patronales.
En Indre-et-Loire, c'est un lotissement, on va dire, particulier qui s'apprête à voir le jour, le Clos Saint-Gabriel. Il a été en effet pensé pour la communauté chrétienne et ça crée un petit malaise.
À illustration d'une forme de communautarisme à la française, la partition décrite par le géographe Christophe Guilluy, ou plus récemment telle que racontée par le politologue Jérôme Fourquet dans L'Archipel français, eh bien ça se passe à l'île Bouchard, petite commune d'Indre-et-Loire. Un lotissement de 17 maisons doit voir le jour. Particularité, il est destiné de préférence aux chrétiens. De préférence, Julien, ne veut pas dire exclusivement. Il n'empêche, cela fait polémique dans la commune. Reportage Océane Théard.
Ce n'est encore qu'un vaste champ en friche. Mais Damien Thomas, cofondateur de l'entreprise Monasphère en charge du projet, voit déjà les 17 maisons du Clos Saint-Gabriel sortir de terre.
Là, sur notre gauche, on a une première rangée de 3 maisons. Un peu plus loin, il y a encore une autre maison. Et un peu plus à droite, ce sera un jardin partagé, puis une halle. Comme dans les vieux villages où il y avait un lavoir ou une grande halle en dessous de laquelle les papys jouent aux boules. C'est vraiment un lieu de convivialité. C'est un projet qui est proche des lieux spirituels chrétiens, mais ce n'est pas un projet qui est réservé aux chrétiens.
Car l'essentiel, c'est l'emplacement. Un terrain vendu par l'influente communauté catholique de l'Emmanuel est situé à 1 km du sanctuaire de l'église Saint-Gilles. La spiritualité, c'est un des arguments de vente de Monasphère et 70 familles seraient déjà intéressées, parmi elles Clément et sa compagne.
Je suis catholique et je vais aussi à la messe. Après, c'est pas la raison pour laquelle je fais partie du projet. C'était en fait un plus que vraiment la raison pour laquelle on est venu. J'aime bien jouer aux jeux de société, à la pétanque, enfin ce qu'on veut. Et donc du coup, quand ils m'ont parlé du hall où on pouvait se retrouver pour animer des temps, ça me parle beaucoup.
Mais dans la petite commune de 1610 habitants, le projet divise. La maire refuse de prendre parti, tandis que ses rivaux montent au créneau. Guy Jouteux, conseiller municipal de l'opposition, craint une mainmise de la communauté de l'Emmanuel sur le village.
Les sympathisants possèdent énormément de maisons autour de l'église Saint-Gilles à l'île Bouchard, et on sent qu'il y a une emprise. Donc là, avec ce lotissement qui se met en place, on accentue un peu ce côté communautaire.
La construction de cet îlot en lisière du village devrait débuter cet été. Les premières familles sont attendues pour début 2024.
À la reportage Océane Théa.
Direction maintenant le centre Georges Pompidou à Paris pour un hommage à un artiste trop méconnu.
Gaston Paris, c'est de lui dont il s'agit. Photographe très important des années 30, mais quelque peu oublié depuis, c'est vrai. Beaubourg propose aux visiteurs de découvrir un artiste qui avait un don, celui de photographier le spectacle côté coulisses et non pas côté scène. Si vous avez toujours rêvé de voir l'envers du décor, cette exposition Gaston Paris devrait vous combler. Reportage Marie Giquel.
Le spectacle bizarre, voilà ce qui régalait l'objectif de Gaston Paris. Le musée Grévin et ses poupées de cire démembrées, la fête foraine et ses étrangetés comme l'homme robot ou la femme panthère, et plus simplement la rue et ses mannequins de vitrine.
Ah mais Gaston Paris, c'est tout le temps bizarre.
L'historien Michel Frisot a réhabilité le photographe tombé dans l'oubli.
Par rapport à ce qu'on connaît de la photographie d'art ou de la photographie de presse de ces années-là, il est tout le temps bizarre.
Et c'est associé à Florian Ebner, conservateur au Centre Pompidou pour monter cet événement.
Le surréalisme avait un intérêt pour les choses quotidiennes qui apparaissent sous une autre lumière, des mannequins qui, à travers la photographie, revitalisent les enseignes optiques photographiées en contre-plongée qui se transforment dans d'autres formes. Donc, c'est exactement ça, de découvrir une autre réalité dans les quotidiens.
L'œuvre demeure, le mystère autour de la vie de l'artiste aussi. Avec cette exposition, le Centre Pompidou espère bien recueillir de nouvelles informations sur ce quartier bresson du surréalisme.
Marie Giquel, exposition Gaston Paris. C'est au Centre culturel Georges Pompidou à Paris jusqu'au 18 avril 2022. Puis Julien, un dernier mot de tennis, l'Open d'Australie avec l'élimination de la Française Harmony Tan, battue par Elina Svitolina, la Française 107e mondiale, qui a dû abandonner dans la troisième et dernière manche, blessée au mollet.
Merci beaucoup pour ce journal, Christophe Lamar. On passe aux courses hippiques, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va se courir ce Quintet, un handicap qui qui réunira 14 chevaux âgés de 4 ans et non 16, comme initialement prévu, les numéros 6 et 15 ayant déclaré forfait. Présenté par l'entraîneur belge Fabrice Vermeulen, les numéros 3, Dr Karl, 4, Cartilla et 16, Oulong, méritent un très large crédit, car je sais que ce professionnel n'aime jamais courir ce genre de course sans avoir une réelle chance. Face à cette coalition, je vous recommande Krishna d'Argent, le numéro 11, une jument estimée qui défend les couleurs du footballeur Antoine Griezmann, qui, je le sais, a été préparé avec soin en vue de cet objectif, avec Marrakech Moon, le numéro 13, très endurci et idéalement placé pour sa première tentative dans un handicap. Enfin, les numéros 5, Amera, 9, Master Boy et 7, Danilova, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 4, 16, 11, 13, 5, 9 et 7.
Et vous retrouvez tous ces pronostics sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où, à 6h-20, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est aujourd'hui que sort en salle le 50e film de Claude Lelouch, L'amour, c'est mieux que la vie. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Élise, c'est l'occasion de revenir sur l'incroyable carrière du réalisateur, producteur et scénariste de 84 ans. Carrière qui avait pourtant très mal commencé.
Et oui, après des débuts en tant que reporter, Claude Lelouch réalise son premier long-métrage en 1960. C'est un échec total, comme les 3-4 autres films qui suivront. Pour se faire un peu d'argent, Lelouch réalise des Scopitones, ancêtres du clip vidéo, notamment pour Sheila. Et c'est en 1966 que sa carrière va prendre un tout autre tournant, avec un homme et une femme qui lui permet de décrocher la Palme d'Or au Festival de Cannes, deux Oscars et une quarantaine de récompenses internationales. Et déjà passé l'étonnement, c'est un Lelouch affirmé qui répond aux questions de François Jouffa sur Europe 1.
Il y a un mois, vous ne vous attendiez sûrement pas à avoir un prix à Cannes.
Non, mais il y a un mois, on ne savait même pas qu'on allait être sélectionné.
Je me souviens qu'il y a 2 ans, tout le monde vous traînait dans la boue pratiquement.
Ah oui, il y a même pas 2 ans, il y a tout simplement 6 mois.
Dites-moi Claude Lelouch, on va sûrement vous faire des tas de propositions maintenant.
Oui, non, moi je veux pas du tout changer, moi. Moi, je veux absolument rester et continuer à tourner de la façon dont je tourne. Faire tout simplement les films qu'on a envie de faire, les sujets qu'on a envie de faire et éviter à tout prix le film de commande, c'est surtout ça.
Toujours, le réalisateur a revendiqué un cinéma instinctif, comme quand il défendait son choix de faire jouer Bernard Tapie dans Homme-femme mode d'emploi en 1996.
Je pars toujours de ce que me dit mon cœur. Voilà, si vous voulez, j'ai toujours privilégié les conseils de mon cœur à ceux de mon cerveau. Et mon cœur m'a dit un jour qu'il fallait faire tourner Bernard Tapie il y a très très longtemps.
Ou quand il confiait sur Europe 1 l'importance d'aller au-delà des figures imposées avec ses acteurs.
On parle d'improvisation sur mes films, c'est faux, il n'y a pas d'improvisation. Il y a des prolongements de vie. Donc je leur donne le texte. En général, ils le disent bien. Et quand ils le disent très très bien, je ne dis pas couper. Je laisse la vie continuer. C'est à ce moment-là qu'on devient vrai.
Voilà, la vérité, Élise, a toujours été une sorte d'obsession chez Lelouch.
Oui, il la traque dans chacun de ses films et on la retrouve aussi dans son tempérament, comme Anne Sinclair a pu le constater. C'était en 1975 dans Tout peut arriver sur Europe 1.
On a dit de vos films qu'ils étaient des tranquillisants. Vous préférez, vous, apaiser ou déranger?
Écoutez, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends des cachets d'aspirine. Et si mes films peuvent...
Des cachets d'aspirine?
Pourquoi pas, je ne suis pas contre les cachets d'aspirine.
La quête de vérité dans la vie, dans les films et dans la musique qui les accompagne, notamment celle de son ami compositeur Francis Lay, qui signe entre autres l'incroyable chanson d'un homme et d'une femme interprétée par Nicole Croisille et Pierre Barou.
La musique est un acteur important, principal de tous mes films, parce que c'est elle qui parle le mieux justement à notre part d'irrationnel, c'est elle qui nous fait décoller.
Et l'autre acteur dont Lelouch ne cesse de faire l'éloge au fil de ses interviews et de sa carrière, eh bien c'est la caméra qu'il n'est manifestement pas prêt de lâcher.
Élise Dangean, c'était le jour où, et on va voir ce que vaut le dernier film de Claude Lelouch dans 10 minutes avec Laurie Choleva. Vous restez avec nous dans quelques secondes, la quinzaine du climat organisée par la métropole de Lyon. A tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée avec nous sur Europe 1. Il est 5h44 et c'est en ce moment que la métropole de Lyon organise une quinzaine du climat, des ateliers quotidiens pour sensibiliser les habitants du Grand Lyon au changement climatique. On en parle, Omblin, avec le vice-président de la métropole de Lyon.
Bonjour Philippe Guelpa-Bonaro.
Bonjour.
Chaque jour, pendant 2 semaines, vous proposez des ateliers thématiques en ligne afin que les citoyens s'emparent de solutions innovantes en faveur de la lutte contre les réchauffements climatiques. Parce que les mesures à prendre finalement ne se limitent pas aux pistes cyclables et à la végétalisation de l'espace urbain.
Tout à fait. Les mesures à prendre, elles sont bien plus vastes. Et de l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle institutionnelle, en passant par l'échelle des entreprises, des salariés en entreprise, et de toutes les associations qui font le tissu fertile et vivant de la métropole de Lyon. À tous les niveaux, on peut s'engager. Et l'idée, c'est de présenter des dispositifs qui parlent à chacun selon la volonté de s'engager et l'impact que ça peut avoir.
Oui, l'idée aussi, c'est donc que ce concept, si on peut parler de concept, de transition écologique, ne soit plus quelque chose d'abstrait aux yeux des citoyens et que chaque jour, à notre petit niveau, on puisse agir.
Oui, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur des dispositifs qui sont très concrets sur les aides financières pour rénover son logement, sur comment on fait équipe avec ses collègues salariés pour réduire son impact au bureau, sur comment on fait pour changer son système de chauffage au bois qui, en plus d'être peu efficace énergétiquement, va créer de la pollution de l'air, sur comment on a des outils pour développer le photovoltaïque en toiture avec entre citoyens, entre voisins et investir ensemble dans des coopératives citoyennes. Voilà, il y a tout un tas de projets portés par la métropole de Lyon, les services de la métropole de Lyon et aussi certains de ses partenaires comme Anciela, l'Agence locale de l'énergie du Clément ou même la CCI à destination des entreprises. Donc c'est vraiment des clés très concrètes pour changer ses habitudes, investir, s'engager vraiment dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Alors, Julien parlait d'ateliers pour sensibiliser les habitants du Grand Lyon, mais le fait de proposer des ateliers en ligne, vous ne vous adressez pas seulement à vos administrés ?
On s'adresse même à la base, principalement aux partenaires du plan climat. Donc 150 partenaires, des collectivités, des entreprises, des associations, des bailleurs sociaux qui sont partenaires depuis longtemps du plan climat et les inciter à s'engager et à accélérer. Mais on voulait justement pas que ça reste juste, entre guillemets, entre partenaires. On a voulu élargir ça à tous les habitants, à tous les curieux, à tous ceux qui veulent voir un petit peu ce que fait concrètement la métropole de Lyon. Et donc, on a ouvert au grand public la grande majorité des ateliers, parce que si on peut donner des bonnes idées à des gens qui ne sont pas partenaires du plan climat, parce qu'ils sont simplement citoyens et pas spécialement salariés d'une entreprise partenaire, pourquoi pas ? L'idée, c'est qu'on accélère vraiment et qu'il y ait cette mobilisation générale pour le climat en 2022 sur la métropole de Lyon et pas seulement sur la métropole de Lyon, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul.
Ils sont ouverts chaque jour au public entre midi et 14h. C'est la pause déjeuner, tout le monde peut s'arrêter et s'inscrire. Ça vous permet d'agir en temps de Covid, puisque c'est en distanciel.
Exactement. On aurait dû se retrouver tous ensemble en présentiel pour la grande conférence énergie-climat de la métropole de Lyon, qui a lieu tous les 2 ans. Elle a été reportée au 4 avril prochain, mais du coup, autant garder le créneau et faire d'une contrainte une opportunité, c'est un peu ma philosophie, et c'est d'ailleurs la philosophie qu'on doit avoir face au dérèglement climatique. On doit voir ça comme des opportunités d'évolution humaine, de changement de société, et du coup, chacun peut se connecter sur le temps entre midi et 2 pour suivre un atelier et comprendre comment agir plus concrètement, encore une fois, dans son entreprise ou avec ses voisins ou en allant directement voir son patron, si ce n'est pas le patron lui-même qui va suivre les ateliers.
Les ateliers, il y en a un par exemple, justement, puisqu'on est dans la pause déjeuner, il y a des ateliers qui proposent des solutions aux salariés. Ce que vous disiez, agir dans son entreprise pour la transition écologique, c'est possible. Et au niveau des entreprises, c'est possible comment ?
On a plusieurs leviers et c'est là où on a plusieurs aussi ateliers qui vont en parler. On a Bureau à énergie positive qui va se concentrer sur les économies d'énergie au bureau. Donc l'énergie, c'est beaucoup le chauffage, mais c'est aussi l'éclairage, c'est aussi toutes les veilles qu'on a dans nos appareils électroniques. C'est le chauffage ou peut-être qu'en s'habillant autrement ou en isolant aussi, en demandant à son entreprise d'isoler mieux les bâtiments, on peut faire des économies d'énergie. Et puis, c'est réduire aussi les déchets en adoptant des bacs de tri qui sont vraiment beaucoup plus rigoureusement relevés que ce qu'on a parfois l'habitude d'avoir dans certaines institutions où on a plus ou moins du recyclage, plus ou moins les ordures ménagères, mais au final, ça risque de tout partir au même endroit. C'est aussi le rôle des salariés de sensibiliser, de faire des démarches sur la responsabilité sociale de leur entreprise, que de s'engager sur ces sujets. Et va avec le réseau FEV, avec Anciela, avec l'ALEC, avec des services civiques, on propose des ateliers pour que les salariés comprennent et se motivent. C'est vraiment cette histoire de motivation, d'engagement pour réduire leurs impacts et adopter des habitudes qui soient vraiment vertueuses et sympas. En fait, on a aussi envie de rendre cette transition agréable à vivre et motivante.
Oui, cet atelier Agir dans son entreprise pour la transition écologique et solidaire aura lieu tout à l'heure, entre midi et deux. Merci beaucoup Philippe Guelpa-Bonaro. Je rappelle que vous êtes vice-président de la métropole de Lyon et la quinzaine du climat, c'est en ce moment et c'est jusqu'au 28 janvier exactement. Merci.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Jean-Michel Blanquer assume mais regrette la symbolique. Le ministre de l'Éducation, invité du 20h de TF1 hier soir, a tenté de désamorcer la polémique sur ses vacances à Ibiza, alors qu'une nouvelle journée de grève est prévue demain dans l'éducation nationale. Sur le front de l'épidémie de Covid, nouveau record de contamination hier, près de 465 000 cas en 24 heures, du jamais vu. Dans le même temps, la dose de rappel de vaccin anti-Covid va être ouverte aux adolescents âgés de 12 à 17 ans vivant avec des personnes fragiles, a annoncé hier le ministère de la Santé. De la remontada à la renonciada, Arnaud Montebourg doit annoncer aujourd'hui son retrait dans la course à l'Élysée. Aucun ralliement n'est prévu, du moins pour le moment.
L'actualité culturelle sur Europe 1 et le mercredi, on se penche sur les sorties cinéma de la semaine.
Avec bien sûr Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Laurie, cette semaine, on en parlait il y a quelques minutes, c'est le retour au cinéma de Claude Lelouch avec un film qui porte un très beau titre d'ailleurs, « L'amour c'est mieux que la vie ».
Exactement, et Claude Lelouch qui ne faillit pas à sa réputation d'observateur de la vie, d'amoureux de l'amour et du cinéma, avec effectivement « L'amour, c'est mieux que la vie », son 50e film avec un casting de choix qui marque aussi d'ailleurs ses 60 ans de carrière et devrait constituer le premier volet d'une trilogie. Alors c'est l'histoire de Gérard, joué par Gérard Darmon, qui est malade et condamné, mais qui va vivre sa dernière grande histoire d'amour grâce à ses deux meilleurs amis, avec Sandrine, incarnée par Sandrine Bonnaire.
Et vous voulez quoi au juste ?
Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour.
Vous êtes venu seul sur ce bateau ?
Oui, pourquoi ?
Ah, parce qu'en général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème.
Bah donc vous aussi, vous avez un problème.
Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça ?
Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas, hein ?
Si le premier venu n'est pas le dernier des cons, on aime beaucoup les répliques du film, un merveilleux casting. Et puis voilà, un film qui est vraiment une pulsion de vie, une ode à cette chance incroyable que nous avons d'être vivants. Un film qui nous rappelle qu'il faut profiter de chaque petit moment de la vie. Il y a notamment une scène où Gérard Darmon déjeune avec ses amis, il boit très lentement sa bière. Et donc ses deux copains lui demandent « Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette bière ?» Et il répond « Rien, mais c'est peut-être ma dernière. » Et c'est un très beau moment de cinéma et inspiré d'une scène que Claude Lelouch a réellement vécue en compagnie de Jacques Brel.
Dans un autre registre cette semaine, Laurie, il y a « Tendre et saignant ».
Oui, une façon différente de parler d'amour, mais il s'agit bien d'une comédie romantique tendre et saignante, comme le titre l'indique. Alors, c'est l'histoire d'une rédactrice en chef d'un magazine de mode qui va voir sa vie chamboulée lorsqu'elle hérite de la boucherie de son père. C'est vrai que c'est pas le même univers. Et elle va, par la même occasion, faire la connaissance de celui qui tient la boucherie, le sexy Martial, incarné par Arnaud Ducré.
Oh non, non, non.
Je leur dis quoi, client ? Ton chat nous a laissé tomber, démerdez-vous.
La boucherie Fleury ne plante pas ses clients avant Noël.
Vous êtes journaliste de mode ou vous êtes bouchère ?
On dîne avec des amis de Julia.
Tu veux pas que je vienne ?
Pour toi, c'est des ploucs.
C'est comme ça que tu me vois ?
Je te vois pas. Tu es comme ça. T'es toute stressée. Tu goûtes pas, tu vis pas, tu sais plus d'où tu viens.
Alors c'est vraiment une jolie comédie qui fonctionne à merveille avec au casting aussi Géraldine Pellas, plus souvent vue dans des films d'auteur, qui apporte beaucoup de fraîcheur et de douceur au film. Et puis au-delà de cette histoire d'amour, c'est un film sur le changement de vie, de quelle façon on peut se réinventer. Et puis c'est aussi un film qui met en avant les petits artisans, ceux qui exercent aujourd'hui encore leur métier de façon passionnée. J'ai beaucoup aimé et j'adore Arnaud Ducré dans ce registre et je suis ravie que des réalisateurs pensent à lui dans d'autres registres.
tendre et saignant, avec donc Arnaud Ducré et Géraldine Pellas. Et puis, L'amour c'est mieux que la vie, ça c'est le dernier Claude Lelouch. Voilà les deux films que vous nous conseillez cette semaine au cinéma. Merci beaucoup, Laurie Choleva.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et vous restez avec nous, 5h57 sur Europe 1, dans un instant, la météo, le journal et une proposition de loi.
Visant, je cite, à encourager l'usage du contrôle parental. En clair, si ce texte qui vient d'être adopté hier soir à l'Assemblée nationale, les fabricants de téléphones, tablettes ou d'ordinateurs vont être obligés d'installer d'office sur leurs appareils un contrôle parental dont l'activation sera proposée à la première mise en service du produit. Objectif, protéger nos enfants exposés de plus en plus tôt à la pornographie, à la violence ou au cyberharcèlement. Je vous donne juste cette statistique, Omblin. Près d'un tiers des enfants âgés de 12 ans a déjà vu des images ou un film X. Ce dispositif va-t-il réellement changer la donne? On en parle dans une dizaine de minutes avec le rapporteur de ce texte, le député LREM Bruno Studer. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Alors l'Amérique lui voue une admiration sans borne. Country, Dolly Parton, à la féminité exacerbée, décomplexée, une brillante femme d'affaires érigée au rang d'icône, une philanthrope, une combattante. Et on, oui, une combattante, Dolly Parton. Ce sera un plaisir de parler d'elle dans 20 minutes dans la partition.
C'est noté, mais avant, il y a la météo avec Anissa Haddadi. Elle aussi, une combattante et une figure. Le temps change et ça se dégrade.
Une figure comme ça.
Figure contemporaine.
En tout cas, j'écoute cette chanson sur mon vélo en venant le matin.
Ça met la pêche, hein.
Ouais, ça donne incroyable. La pêche. Bon, on a beaucoup moins de soleil aujourd'hui. C'est un temps bien gris sur l'ensemble du pays. Alors en fait, on a une petite perturbation qui arrive par la mer du Nord. Alors elle est très peu active, cette petite perturbation, mais elle va nous apporter beaucoup de nuages. Donc ce matin, soyez extrêmement prudents. On a des brouillards sur les 4/5 du pays. Des brouillards givrants dans l'est, dans le centre de la France. Essayez de partir un peu plus tôt. Ça risque d'être compliqué. La visibilité est bien réduite sur les routes. Alors on a un petit peu de soleil ce matin quand même, entre le territoire de Belfort et les Alpes du Sud, en passant par la vallée du Rhône. Mais dans l'après-midi, le soleil va se cacher. Le ciel se couvre. Il ne restera plus que du soleil en montagne, avec même un risque d'averse dans le nord. Donc ça se dégrade même sur le pourtour méditerranéen, dans le Var, pardon. Moins 4 à Rodez et Valence, moins 3 à Vesoul. Il fait froid ce matin, moins 2 à Montluçon et Albi, moins 1 à Reims, 2 degrés pour Paris et Marseille, 5 à Bastia. Cet après-midi, ça baisse encore.
On se couvre donc. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et vous faites bien. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le mercredi 19 janvier. Et il est 6h. Plus de 460 000 nouveaux cas de Covid hier, énième record à l'hôpital. En revanche, les chiffres se stabilisent, 3 800 patients en réanimation et la moitié souffrent d'obésité. Une population encore plus exclue par la pandémie, témoignage dans un instant. Emmanuel Macron face aux eurodéputés de Strasbourg, le chef de l'État, en même temps président de l'Union européenne et potentiel candidat à l'élection présidentielle française. Deux agendas distincts qui inquiètent les parlementaires. Et puis on remontera le temps dans ce journal, 4500 ans précisément avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que les peuples ont inventé l'ancêtre du cheval. On vous explique tout dans un instant.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Un record, plus de 300 000 nouveaux cas de Covid chaque jour en moyenne. Le pic épidémique se rapproche et les admissions en réanimation se stabilisent. Des services où la moitié des patients, 47%, sont obèses selon le ministère de la Santé. Une population à risque, encore plus isolée, stigmatisée même par la pandémie. Yasmine Akatou.
Depuis 2 ans, Catherine vit chaque jour dans l'angoisse. À 55 ans, malgré ses 3 doses, son obésité l'oblige à vivre isolée pour éviter une infection au Covid. Le quotidien est devenu oppressant.
De temps en temps, on va faire des courses comme tout le monde. Je ne vous dis pas le stress, quoi. C'est nettoyage du caddie. On sort du magasin, on se remet du gel. On arrive à la maison, je rince tout. Ça prend un temps fou. Les amis, les sorties, on ne peut pas se réunir. qu'on se sent désociabilisé, quoi.
Le moral de Catherine est au plus bas ces dernières semaines. La santé mentale des personnes obèses a été ébranlée par la pandémie. Alexandra Tubiana, psychologue spécialiste des troubles alimentaires, l'a constaté.
On a tellement insisté sur c'est les gros qui sont les plus à risque que toute personne en situation d'obésité est dans un état de stress important, en se disant moi j'ai plus de risques que les autres. Et donc, une grande difficulté à gérer ce stress et donc une aggravation des troubles.
Il faut ajouter à cela la crainte de ne pas pouvoir être correctement soigné, dit la psychologue. Souvent, dans les hôpitaux, les lits, les tensiomètres ou les lèvres-personnes ne sont pas adaptés aux obèses.
Yasmina Katou.
Et pour protéger davantage cette population, le gouvernement va ouvrir la campagne de rappel vaccinal aux 12-17 ans, uniquement pour les adolescents qui vivent avec des personnes à risque.
Un soutien élargi, voilà ce que propose Jean Castex au secteur de l'hôtellerie-restauration. Pendant 2 mois, certaines entreprises pourront recevoir une aide équivalente à 20% de leur charge salariale. Carole Ferry, ce coup de pouce doit compenser les pertes liées au protocole sanitaire.
Et oui, il y a notamment le télétravail qui a un impact non négligeable sur l'hôtellerie-restauration, beaucoup moins de déjeuners le midi par exemple, mais aussi l'interdiction des pots en entreprise qui plombe le secteur de l'événementiel. Alors le gouvernement avait annoncé une prise en charge des coûts fixes pour les professionnels qui perdent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. Là, Jean Castex a décidé d'aller encore plus loin. L'État va prendre en charge 20% du salaire des employés des entreprises qui perdent au moins 30% de leur chiffre d'affaires. C'est exactement les curseurs que réclamaient les professionnels et qui vont un peu plus loin que ce qu'avait proposé Bercy. Enfin, pour les entreprises les plus touchées, celles qui perdent au moins 65% de leur chiffre d'affaires, Matignon annonce une mesure supplémentaire, l'exonération totale des charges patronales, des mesures qui concernent les sociétés de moins de 250 salariés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de l'événementiel et des agences de voyage.
Carole Ferry.
L'heure du grand oral pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État prend la parole ce matin au Parlement de Strasbourg.
Un discours pour présenter les axes de la présidence française de l'Union européenne. Salaire minimum, taxe carbone aux frontières ou réforme de l'espace Schengen. L'occasion aussi d'imposer ses thèmes de campagne à 3 mois de l'élection présidentielle, même si Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat. Un calendrier national qui inquiète les parlementaires européens, Agathe Cherki.
Oui, plusieurs eurodéputés le promettent. Ils rappelleront à Emmanuel Macron tout à l'heure que l'agenda politique français ne doit pas l'empêcher d'avancer sur son agenda européen. C'est une crainte que beaucoup d'eurodéputés partagent, à l'image de l'écologiste allemande Anna de Parnay-Grunenberg.
Si on est très réaliste, la présidence française, vu qu'elle ne peut travailler que 3 mois sur 6, ne va pas faire avancer les dossiers énormément.
Et les inquiétudes sont particulièrement vives pour les dossiers les plus délicats politiquement. Le député roumain chrétien-démocrate Marian Marinescu comptait par exemple sur la France pour faire avancer un texte majeur pour le trafic aérien en Europe.
Je crois qu'ils vont éviter d'avoir des décisions qui peuvent affecter le président Macron dans sa campagne électorale. Par exemple, le dossier style unique, c'est un dossier qui peut provoquer des grèves.
Un espoir quand même au Parlement. Tout le monde a bien conscience qu'Emmanuel Macron va profiter de la présidence française du Conseil pour renforcer son image pro-européenne. Et certains eurodéputés y voient une aubaine et se disent qu'au moins, dans les mois à venir, en France, on parlera d'Europe et qu'en Europe, eh bien, la France a tout de même intérêt à engranger quelques succès.
Agathe Cherki, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Une attaque russe en Ukraine est possible à tout moment. C'est l'alerte lancée par les États-Unis après des manœuvres militaires en Biélorussie.
Alexis Guillaume, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain est en Europe justement cette semaine et Anthony Blinken veut encore laisser sa chance à la diplomatie.
Oui, un déplacement de dernière minute face au renforcement du déploiement militaire russe. Tout à l'heure à Kiev, Anthony Blinken renouvellera le soutien des États-Unis au président Zelensky. Puis il rencontrera son homologue russe vendredi à Genève pour tenter de trouver une porte de sortie diplomatique. Les deux hommes se sont déjà parlé au téléphone. Hier, Sergueï Lavrov attend des réponses concrètes aux demandes de Moscou, notamment sur le non-élargissement de l'OTAN. Un sujet dont les États-Unis ne veulent pas entendre parler. Cette impasse dans les négociations inquiète Washington, qui s'est exprimée par la voix de la porte-parole de la Maison-Blanche.
C'est une situation extrêmement dangereuse. La Russie peut à tout moment lancer une attaque en Ukraine. Le choix revient à Vladimir Poutine et les conséquences seront massives s'il n'opte pas pour la voie diplomatique.
Alors toutes les options sont sur la table, assure la Maison-Blanche. Elles seront discutées à Berlin demain, où Anthony Blinken y rencontrera les alliés occidentaux. L'exclusion de la Russie du système financier international SWIFT est toujours évoquée. Mais Washington veut privilégier la voie diplomatique et le répète depuis plusieurs semaines. C'est bien Vladimir Poutine qui a créé cette crise en amassant des troupes à la frontière ukrainienne.
Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Des troupes et des tanks transportés en train jusqu'en Biélorussie. Les images sont assez impressionnantes. Ça, c'est en 2022. 4500 ans avant notre ère, les peuples employaient une autre méthode pour faire la guerre.
Et oui, vous avez même le bruitage, puisqu'on va parler de l'âne.
Vous reculez devant rien.
Un âne hybride, bien sûr, il faut joindre la parole au son utilisé. Cet âne hybride, il a été utilisé par les Mésopotamiens sur les champs de bataille. C'est le premier exemple d'une manipulation volontaire des espèces, c'est très sérieux. Et c'est une découverte d'une équipe du CNRS que vous raconte Zoé Pallier.
Ce sont des ânes plutôt trapus apparus il y a plus de 4500 ans. Les Mésopotamiens les utilisaient lors des combats pour tirer leurs chars. Ces équidés, appelés kunga, avaient pour mère une ânesse domestiquée et pour père un âne sauvage d'une autre espèce. C'est ce qu'ont découvert par des analyses ADN des chercheurs de l'Institut Jacques Monod, dont fait partie Eva Maria Geigel.
On a pu conclure que ces équidés-là sont des hybrides faits par l'être humain parce qu'on savait aussi qu'ils étaient stériles. Les Mésopotamiens, ils ont dû observer un accouplement entre émions, donc un âne sauvage, avec une ânesse domestiquée. Et donc, ils ont commencé à vraiment industrialiser cette pratique.
Car le kunga héritait des qualités de ses deux parents.
On peut supposer que ces kunga, ils étaient plus contrôlables, parce que la mère était une ânesse domestiquée, et qu'ils étaient plus rapides, parce que les pères étaient un émion.
Mais ce génie génétique imaginé à l'âge de bronze n'a finalement pas tenu face à l'arrivée du cheval domestique qui se reproduisait un peu plus facilement.
Voilà pour le récit étonnant de Zoé Pallier.
Effectivement, c'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
Il est 6h08, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange est à la une ce matin. Une fois de plus, le Covid.
Oui, avec d'abord les matchs en retard en Ligue 1. Clermont reçoit Strasbourg. Montpellier se déplace à 3 et le champion de France Lille accueille Lorient. Un match une nouvelle fois perturbé par le virus. Le coach lillois Jocelyn Gourvennec est positif depuis lundi. Il est à l'isolement et déplore des reports qui faussent l'équité. Il aurait préféré jouer lors du week-end de Coupe de France. Écoutez.
Moi, ce que je regrette, c'est que les matchs en retard ne puissent pas se faire sur des fenêtres comme ça. Je ne vois pas ce que ça change d'avoir et de la Ligue 1 et de la Coupe de France un même week-end. Ça fait rajouter beaucoup de matchs en semaine. Et c'est pas très équitable.
Lille qui devrait accueillir dans les prochaines heures Atem Ben Arfa en rayon transfert, toujours une arrivée à Marseille, celle du défenseur bosniaque Sead Kolasinac. Et puis à la CAN, une surprise hier, l'élimination au premier tour du Ghana, battu 3-2 par les Comores.
Covid toujours et les bleus du handball sont également touchés.
Oui, on a appris hier le test positif de Karl Konan, un clé de voûte de la défense des bleus. L'arrière gauche est à l'isolement pour 5 jours minimum et c'est le jeune Théo Monard qui a été appelé en renfort.
On passe au rugby, Martin, et pas de surprise en vue au tournoi des 6 nations.
Non, Fabien Galtet. Fabien Galthié a dévoilé hier la liste des 42 joueurs convoqués pour le stage. Les vainqueurs des Blacks en novembre sont tous là, à l'exception de Jalibert, blessé. 4 petits nouveaux tout de même, le pilier Bibi Bouizou, le 3e ligne Johan Tanga, l'ouvreur Léo Berdeux et le 3/4 Jules Favre.
C'est une info Europe 1. L'INSEP lance aujourd'hui une consultation pour connaître les besoins des fédérations en vue de 2024.
Oui, ça commence avec la natation. Cette tournée des fédés s'achèvera en juin. C'est Fabien Canu, le directeur de l'INSEP, qui mènera ces consultations. L'ancien judoka veut faire de cet INSEP un vrai mini village olympique pour préparer au mieux les athlètes. On l'écoute.
Ça ressemble déjà sur un certain nombre de points à un village olympique en fait, parce que les sportifs dorment, vivent, s'entraînent à l'INSEP. Après, il y a des efforts à faire sur un certain nombre de prestations qu'on peut trouver dans un village. Exemple, un salon de coiffure qui va ouvrir prochainement. Il y a aussi en même temps un barbier et onglerie. On va respirer les jeux dans l'INSEP assez rapidement.
Fabien Cagnu au micro d'Axel May. Et puis un mot de l'Open d'Australie pour finir. C'est fini pour la française Harmony Tan, alors que Corentin Moutet et Raphaël Nadal sont actuellement sur le court.
Merci Martin. C'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant. Le député En Marche, Bruno Studer, sera avec nous pour nous parler de sa proposition de loi adoptée hier soir à l'Assemblée nationale. Texte qui veut encourager l'usage du contrôle parental sur les téléphones de nos enfants. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h12, merci d'écouter Europe 1. Votre invité ce matin, Julien, est député La République En Marche du Bas-Rhin, président de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée Nationale.
Bonjour Bruno Studer.
Bonjour à vous.
Merci d'être en direct avec nous quelques heures seulement après l'adoption à l'unanimité hier soir à l'Assemblée nationale de votre proposition de loi visant, je cite, à encourager l'usage du contrôle parental sur les téléphones, tablettes ou ordinateurs qu'utilisent nos enfants qui, on le sait, sont exposés de plus en plus tôt à la pornographie ou au cyberharcèlement. Quel est le système exactement que vous proposez pour faire reculer ces fléaux ?
Bien écoutez, il s'agit de rendre le contrôle parental plus facilement accessible, plus facilement activable et manipulable. Et donc, la disposition principale du texte, c'est de faire reposer une responsabilité nouvelle sur les constructeurs de tous ces appareils dont vous venez de parler, qui devront avoir systématiquement préinstallé un outil de contrôle parental dont l'activation sera proposée à l'utilisateur lors de ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Vous savez, c'est lorsque vous achetez par exemple un smartphone, on va vous demander plein d'informations avant de pouvoir l'utiliser. Eh bien, vous ne pourrez plus échapper à une proposition d'activation du contrôle parental. En gros, on posera la question aux parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas installer de contrôle parental sur l'outil que vous vous apprêtez à mettre dans les mains de votre enfant? Et vous l'avez dit, effectivement, ces enfants, ils vont de plus en plus tôt sur Internet. Et c'est bien parce qu'ils y vont de plus en plus et de plus en plus jeunes qu'il faut les protéger.
Près d'un enfant sur trois,
c'est donc le dispositif qui a été voté hier soir.
12 ans a été exposé à la pornographie. Près d'un enfant sur trois âgé de 12 ans, c'est considérable. C'est une proposition qui est unique, qui ne sera formulée qu'une seule fois dans la vie de l'appareil.
Écoutez, c'est effectivement au moment du parcours utilisateur que ça va apparaître. C'est une proposition qui, vous savez, doit être conforme à différentes contraintes, et notamment contraintes juridiques européennes, puisqu'on met un frein à une liberté de commerce et d'industrie. Puisque si, effectivement, la proposition de loi est ensuite adoptée au Sénat et qu'elle rentre ensuite en vigueur, ce texte forcera des constructeurs mondiaux à adapter un parcours utilisateur à un seul pays, la France. D'ailleurs, ce qui bénéficiera à l'ensemble de la population mondiale, parce que ce sont des appareils globaux. Donc, effectivement, ce sera que à ce moment-là, mais vous savez, c'est un moment important et il s'agit avec cette proposition de loi de proposer le contrôle parental. C'est une brique en plus par rapport à tout ce qui existe. Et puis après, ça reste quand même la responsabilité des parents,
évidemment,
de faire attention. Et donc, on veut simplement leur faciliter la vie parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont découragés par la complexité des outils qui sont proposés.
Il devra répondre à quelle exigence précisément ce contrôle parental ? Il devra être capable de faire quoi à minima ?
Écoutez, ces caractéristiques, elles seront définies par le pouvoir réglementaire, par décret, parce que justement, ce sont des caractéristiques techniques qu'il faut d'ailleurs encadrer. C'est pour cela que, avant que le décret vienne préciser les fonctionnalités minimales, mais vous savez, vous pouvez en avoir une idée, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il s'agit simplement de les rendre plus facilement accessibles et manipulables. Mais ensuite,
je vous ai posé cette question parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière le terme contrôle parental. On peut dire attention, ce site est dangereux. C'est une forme de contrôle parental. Ça n'empêchera pas l'enfant d'y accéder.
Oui, là, pour le coup, il s'agit bien entendu de généraliser la capacité à filtrer l'accès à certains contenus. Vous savez, parce que l'objectif, c'est de rendre finalement la rencontre accidentelle, parce que c'est surtout cela dont il s'agit, de jeunes enfants avec des contenus totalement inappropriés, que ce soit de l'ultra-violence, de la pornographie. Vous savez, quand vous allez au cinéma, aujourd'hui, si vous voulez voir un film comme Venom, que nos jeunes connaissent bien, que les parents connaissent bien, on contrôle votre identité. Il y a certains contenus qui sont effectivement... non seulement déconseiller aux enfants, mais qu'il faut vraiment il faut mettre tout en œuvre pour les en empêcher, parce qu'encore une fois, il y a de très jeunes enfants qui aujourd'hui naviguent seuls. Et concernant ces très jeunes enfants, je pense qu'il faut assumer d'avoir un contrôle parental. Et puis, vous savez, naturellement, votre enfant, il grandit, il va vous demander de désactiver le contrôle parental. Et donc, l'objectif et l'esprit de la loi, c'est de dire que d'un contrôle parental, on va vers un dialogue familial.
Vous l'avez dit, à peine plus d'un tiers des parents aujourd'hui en France installent sur le smartphone un contrôle parental sur le smartphone de leur enfant. Pourquoi ne pas rendre automatique l'activation de ce contrôle parental, comme l'avait annoncé il y a 2 ans Emmanuel Macron ?
Parce que c'est extrêmement compliqué à faire, parce que juridiquement, c'est certainement même impossible par rapport au texte européen qui existe aujourd'hui.
Ça paraît quand même dingue, excusez-moi, que juridiquement soit impossible d'imposer à Samsung, Apple et autres Google d'imposer de facto ce contrôle parental et libre à chaque utilisateur de le désactiver.
Mais qui dit désactivation dit que vous envoyez des données personnelles qui sont, de données personnelles toujours sensibles, et donc il faut toujours faire attention à ne pas mettre à disposition de ces grandes entreprises des données qui sont sensibles. Personne n'a besoin de savoir quelle personne, à quel moment, désactive un contrôle parental. Je pense que chacun peut comprendre cela. Après, ça aurait aussi un effet peut-être qu'on ne mesure pas tout à fait aujourd'hui, mais qui pourrait être pervers, c'est-à-dire penser que du coup, l'enfant est protégé, alors que non, moi ce que je dis depuis le départ, c'est que ça n'est pas une solution miracle, simplement un outil en plus. Et il faut vraiment que les parents aient conscience de ce que font leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, on estime que entre 25% des 11-14 ans mettent une alarme la nuit pour se réveiller, pour répondre à leurs messages. Alors vous savez, la loi, elle ne peut pas tout. Elle ne peut pas dire aux parents, il est interdit de donner un téléphone la nuit à votre enfant dans votre chambre. Par contre, c'est très très déconseillé, vous devriez le savoir. Mmh. Et de la même façon, la loi, elle dit, faites attention à ce que... Elle ne peut pas dire, faites attention à ce que vont consulter vos enfants sur Internet. On peut vous aider en filtrant les contenus notamment.
Cette proposition-là est aussi, on le comprend, un appel aux parents à plus de vigilance, effectivement, sur les contenus que consultent leurs enfants. Qu'en est-il des appareils de seconde main, Bruno Studer, des appareils reconditionnés, par exemple? Parce qu'il arrive que, bien souvent, le premier téléphone que l'on donne à son enfant soit d'occasion.
Et de plus en plus, effectivement. Et donc, c'est pour cela que un amendement a été porté par le groupe La République En Marche, d'ailleurs, pour inclure les appareils reconditionnés dans les dispositions que j'ai fait voter à l'Assemblée nationale. Et donc, on va essayer, effectivement, d'englober l'ensemble des appareils qui sont, effectivement, de plus en plus mis dans les mains de nos enfants.
C'est-à-dire via les mises à jour système futures des appareils?
Exactement. Vous savez, ces appareils, ils disposent de systèmes d'exploitation.
Oui.
Et lorsqu'il y a une mise à jour, c'est-à-dire, et notamment pour les reconditionner, c'est-à-dire que vous réinitialisez complètement le téléphone, et bien si la mise à jour, effectivement, elle contient l'étape de la proposition du contrôle parental dans le parcours utilisateur, et ce sera le cas sur les appareils reconditionnés.
Dernière question, Bruno Studer, très rapidement, si vous le voulez bien. Selon une étude Médiamétrie, c'est à 9 ans et 9 mois en moyenne que les petits Français obtiennent leur premier téléphone portable, soit un âge de plus en plus précoce. Et il n'est pas rare, en effet, de voir en classe des enfants de 7 ans, voire 6 ans, ayant déjà un smartphone. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre le holà, de légiférer, vu les dégâts que cette exposition précoce peut engendrer?
Écoutez, encore une fois, la loi ne peut pas tout. La loi, de toute façon, elle ne pourra jamais contrôler que vous ne mettez pas votre propre téléphone dans la main de votre enfant. Maintenant, effectivement, il y a un message de prévention à faire passer sur la surexposition aux écrans en tant que tel. Après, sur, bien entendu...
Vous avez pris l'exemple des films. On met bien interdit aux moins de 16 ans ou interdit aux moins de 18 ans au film. On pourrait le mettre éventuellement sur l'emballage d'un iPhone, par exemple.
Oui, mais alors à ce moment-là, vous devriez mettre une interdiction sur un écran de télévision, par exemple, parce que c'est pas tant l'écran qui pose souci que le contenu et la façon dont on s'en sert.
Entendu.
Donc, vous savez, il faut...
La loi ne peut pas tout faire. On a compris votre propos et merci beaucoup Bruno Studer de nous avoir présenté ce matin votre proposition de loi qui doit encore être examinée par le Sénat. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres, Alban Le Prince.
Et le pic de la cinquième vague n'est toujours pas là. Nouveau record en 24 heures hier avec près de 465 000 contaminations au Covid enregistrées. Le nombre moyen de cas quotidiens s'établit à 309 000 sur une semaine. Alors qu'une nouvelle journée de grève est prévue demain dans l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer s'est justifié aux 20h de TF1 hier sur ses vacances à Ibiza. S'il assume, il regrette la symbolique de la destination. Au Burkina Faso, 4 soldats de l'armée française blessés, dont un grièvement lors d'une opération de reconnaissance. Les militaires appartenant à une unité Barkhane ont été victimes d'une explosion d'un engin explosif improvisé. Ils ont immédiatement été évacués à Gao, au Mali.
On termine Omblin avec votre partition consacrée ce matin à l'icône absolue de la musique country, Dolly Parton.
Une légende vivante, Julien, qui continue d'embraser les foules et remplir les stades. Dolly Parton représente une image de l'Amérique dans toute sa complexité.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man.
Dolly Parton fascine autant qu'elle désarçonne, elle est la définition même du paradoxe.
Oui, la chanteuse incarne à la fois le kitsch avec décolleté vertigineux et perruque platine et l'authenticité avec cette voix claire et ses textes qui la ramènent sur les terres de son enfance dans le Tennessee. Dolly Parton, une pop star, une femme d'affaires, une philanthrope, une féministe, l'humour et le franc-parler sont ses armes de séduction massive.
Son histoire commence dans une maison en bois, sans eau ni électricité.
Oui, une enfance misérable mais remplie d'amour. La famille réchauffe ses joues et son âme dans l'église baptiste du quartier. Dolly Parton apprend le chant et la guitare. Elle a 13 ans quand elle se produit pour la première fois à Nashville, la mecque de la country. Elle y retourne 5 ans plus tard pour lancer sa carrière, loin d'être impressionnée par ce milieu gonflé à la testostérone. Joshua, Joshua, what you do living here all alone?
Joshua, Joshua, ain't you got nobody to call your own? Le talent de Dolly Parton attire l'oreille d'un producteur.
Reporter, Wagoner, adepte également des choucroutes capillaires et des costumes à strass. La chanteuse est embauchée pour être sa girl singer, son double féminin dans son show télévisé. Pendant plusieurs années, Dolly et Porter enchaînent les duos jusqu'au jour où elle finit par éclipser son mentor.
Sa carrière s'envole en 1974 avec la sortie de l'album Jolene.
Oui, la chanteuse détourne les codes de la country et plante le talon de sa Santiago dans le répertoire pop retenu par Porter Wagoner. Lorsqu'elle veut se lancer en solo, elle lui écrit « Nous savons tous les deux que je ne suis pas celle dont tu as besoin et que je t'aimerai toujours. » We both know that I'm not what you need. Dolly Parton pleure toute une nuit lorsqu'elle refuse de donner sa chanson d'adieu « I Will Always Love You » à Elvis Presley qui demandait à pouvoir posséder 50% des droits. La version enregistrée par Whitney Houston 20 ans plus tard sera l'un des singles les plus vendus de tous les temps.
Après l'univers de la pop, c'est Hollywood qui lui ouvre ses portes.
Oui, nouveau pied de nez à ceux qui l'enferment dans le rôle de cowgirl bimbo. Dolly Parton donne la réplique à Jane Fonda et Lily Tomlin dans le film 9 to 5. Les trois secrétaires remontés à bloc contre leur odieux patron sont bien décidés à lui clouer le bec. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. De la star américaine et reine de la country Dolly Parton qui fête ses 76 ans aujourd'hui.
Merci beaucoup Omblin, et pour en revenir à Jolene, je vous conseille la version des White Stripes qui est un peu plus rock mais voilà, tout aussi savoureuse. La matinale se poursuit dans un instant avec un food country qui s'ignore. Dimitri Pavlenko, à tout de suite.
Europe Matin,
6h27, bonne matinée sur Europe 1.
Et on vous donne rendez-vous demain dès 5h, bon pied, mon œil, pour vous réveiller dans la joie et la bonne humeur. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.